Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
Une belle rencontre, c'est souvent avec une personne, parfois même une belle personne. Mais pas que. C'est peut-être aussi une rencontre avec un lieu, un livre, une chanson, une œuvre d'art qui va changer votre regard sur la vie. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec une association. L'association CIM, qui organise samedi à 17h30 au Carousel, une autre rencontre avec la théologienne Anne Soupa. Pour en parler, je suis en compagnie de Béatrice Firins, psychologue à Montpellier et membre de la CIM. Bonjour Béatrice.
Bonjour Isabelle.
Je suis ravie de vous retrouver. C'est Nathalie, mais c'est pas grave. Oui. J'ai changé de nom aujourd'hui, c'est sympa. C'est ça, l'émission part fort, mais c'est sympa. Mais on se connaît bien avec Béatrice maintenant. Alors, impossible de me rappeler pourquoi vous étiez venue déjà à la radio. On s'est rencontrés fin 2023. C'était pour quel sujet? C'était une conférence aussi, je crois.
Oui, c'était déjà, je pense, pour annoncer Guy Orange, qui est venu en, c'était de fin novembre, oui.
Au temple de Maglone.
Non, c'était déjà ici, au
Carousel. C'était déjà ici, oui. Voilà. Donc, ben, je suis ravie que vous nous ayez encore contactés, parce que là, c'est vraiment un très bel événement dont on va parler. Mais j'aimerais, comme on a 40 minutes, on a bien du temps là, parler un petit peu de la CIM. La CIM, donc, c'est Chrétiens Ici Maintenant Ensemble. Donc, c'est une association œcuménique,
Non, c'est une association qui, à la base, est catholique. C'est une association loi 1901. Avec un bureau, etc., une équipe d'animation. Et c'est une association qui s'est constituée à partir de l'expérience vécue chez les Dominicains dans les années 80. Et on s'est rassemblés entre laïcs et prêtres. Il y avait des prêtres, il y a toujours d'ailleurs des prêtres qui viennent célébrer le samedi soir quand nous nous retrouvons. Et donc, ça fonctionne sur le goût de créer une association qui fasse communauté, qui partage à partir de l'Évangile, qui vit des moments de convivialité et qui cherche aussi à progresser dans la foi, à progresser dans la vie spirituelle avec des échanges, des conférences, des gens qui viennent donner un cours. Donc c'est assez varié. Et cette association, elle se rassemble aujourd'hui dans un des locaux de la paroisse Sainte-Thérèse, et donc rue d'Assas, et donc c'est catholique, oui, d'obédience, puisque nous faisons bien partie du diocèse de Montpellier, et puis d'autre part, on est très accueillant aux protestants, parce que tous, nous avons eu, ou presque, des contacts avec les protestants, donc nous ne sommes pas loin du tout du protestantisme, et en même temps, c'est spécifiquement quand même catholique. Il y a eu des gens, et j'en fais partie, qui sont aussi bien du côté des catholiques que des protestants, et qui se réclament d'être chrétiens. C'est même, je pense, la plupart des adhérents de CIM, qui sont des chrétiens avant tout, avant d'avoir une étiquette catholique ou protestante. Mais c'est vrai que, voilà, on a une famille dans laquelle on est né, dans laquelle peut-être on reste, et c'est parce qu'il y a des bonnes choses qui s'y vivent.
Après, dans toutes les religions aujourd'hui, et d'autant plus les religions chrétiennes, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs pensées. Est-ce que CIM, c'est plutôt une pensée progressiste? Enfin, bon, par exemple, la personne dont on va parler après, que vous invitez, c'est Anne Soupa. On peut dire que voilà, elle met un peu, hein, elle met un peu de remue-ménage. Est-ce que voilà, il y a cette. J'ai eu le plaisir de rencontrer par deux fois Jean-Marie Brugeron, qui est le président du Secours catholique, qui est un homme formidable. Je dirais qu'il a plutôt des idées très progressistes. Est-ce que CIM, c'est. Alors, on dit là, CIM ou CIM,
CIM
a plutôt des idées voilà, progressistes, comme d'ailleurs ici, enfin, il y a une histoire protestante à Montpellier qui est issue d'un schisme aussi comme ça, de tendances, une qui était très libérale et l'autre qui était très progressiste. CIM se situe où par exemple par rapport à ça?
CIM se situe plutôt vers les progressistes, mais je ne dirais pas que c'est essentiellement progressiste. Il y a aussi un grand attachement à l'Église catholique. Et donc, CIM s'est constitué à partir des Dominicains, comme je le disais tout à l'heure, là où nous avions vécu pendant pas mal d'années, beaucoup d'années, des choses intéressantes où les laïcs avaient vraiment leur place et leur responsabilité dans cette communauté des Dominicains, en particulier pour la messe du samedi ou du dimanche soir. Et donc, il y avait un dynamisme qui avait été initié par un certain nombre de dominicains de l'époque. Et puis, eh bien, les choses ont un petit peu changé. Donc, ça a amené à des changements qui ne nous ont pas toujours réjouis, au point que nous avions un peu de nostalgie de l'époque où nous avions vraiment des responsabilités. Et il y a eu une envie de se regrouper et de continuer cette ouverture qu'avait initiée en particulier Jacques Martin, le dominicain Jacques Martin. Et donc on a continué avec lui et avec d'autres, mais sous forme d'une association qui se retrouvait à l'époque chez les petites sœurs de Saint-François, du côté, au nord de Montpellier.
Mais c'est vrai que c'est une voix formidable. Enfin, c'est vrai que je reviens beaucoup au président du Secours catholique, à M. Brugeron, parce que il a créé un bouquin sur la santé et il a une approche de la santé. Dieu sait que l'Église catholique est proche de ça, puisque pendant des années, elle a été responsable de la santé. Enfin, c'était des sœurs qui s'occupaient de la santé dans les armées. C'était tout le temps des sœurs. Hein, voilà, oui. c'était quasiment presque dévolu à l'Église. Oui. Et donc, lui, il trouve que cette marchandisation, les cliniques qui sont des centres de profit, etc., c'est à l'inverse des valeurs religieuses. On a l'impression, enfin moi qui suis pas religieuse de l'extérieur, je vois qu'elle, enfin l'Église catholique, en même temps elle est caricaturée, je dirais, par Saint Nicolas du Chardonnais et puis l'extrême, hein, les messes en latin, etc. Oui. Alors que moi je rencontre des gens sur le terrain qui sont extrêmement ouverts, vraiment très progressistes, qui sont très dans le social, mais avec pas du tout dans les bonnes œuvres, au contraire, non, vraiment très actifs. Quelle est vous, votre idée, Béatrice, sur votre parole à vous? D'après vous, comment est ressentie l'Église catholique aujourd'hui en France, par exemple?
Je crois qu'il y a de toute façon une telle diversité que je ne peux pas répondre à ça, à cette question-là. Moi, je peux répondre pour mon propre compte, mais je crois que je ne peux même pas répondre pour CIM.
Bien sûr.
Parce que même dans CIM, qui est une petite association, il y a une grande diversité de croyances, de foi, d'intérêts, de goûts. Et bon, moi, je suis du côté d'une église que je voudrais beaucoup plus progressiste. Et en même temps, on essaye de cheminer ensemble, les uns avec les autres, les uns plus traditionnels, les autres moins. Voilà, quelle est l'image qu'a l'église aujourd'hui? Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de croire qu'il y a eu beaucoup d'exceptions dont on a tant parlé tous ces derniers temps, avec tous les abus. Et en même temps, je pense qu'il faut reconnaître que c'est quand même quelque chose d'un peu structurel, à mon point de vue. Encore une fois, je n'engage que moi là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose de structurel dans l'Église qui a favorisé ces abus, cette dimension du sacré.
Et déjà, ça n'enlève rien la gravité des abus, mais le fait que quand même il y ait une commission qui a été créée au sein de l'Église catholique, je veux dire, ils l'ont énormément affronté, ce problème. Ce n'est pas le cas de tout le monde.
Tout à fait.
Ah ben ça n'enlève rien de la faute, hein, Béatrice.
Non, mais c'est bien, je pense, la première institution qui a choisi de demander à une commission extérieure d'étudier la situation. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment remarquable, il faut le reconnaître. Ça, c'est
Et puis, il y a la personnalité du pape François. Enfin, moi, je trouve que c'est un pape très ouvert.
Ah, tout à fait.
Même s'il a des valeurs religieuses, enfin, évidemment, c'est des valeurs religieuses pour un pape, mais enfin, qu'il n'est pas du tout en opposition avec... c'est pas un révolutionnaire, mais je trouve qu'il a une parole différente, ce pape.
Ah oui, complètement. Il est complètement humain. Et puis, il a un goût. Alors, c'est quand même un jésuite. Donc, il a quand même beaucoup appris à prier et à vivre avec la Bible, avec en particulier le Nouveau Testament. Mais ça n'empêche, cet homme-là, il est façonné par quelque chose qui est une ouverture. La dimension de la vie spirituelle d'Ignace de Loyola, donc celui qui n'a pas du tout fondé, mais qui, autour duquel s'est construite cette compagnie de Jésus, est quand même marquée par l'écoute de l'Évangile, l'écoute d'une volonté autre que la mienne, suivre quelqu'un plutôt que de vouloir diriger. Enfin, donc, il a tout pour être un homme qui soit à l'écoute des personnes, à l'écoute de la diversité, à l'écoute même du monde qui serait hors foi chrétienne. Il n'y a pas de fermeture. Et donc ce pape-là, oui, il est très ouvert. Et puis, venant quand même d'Amérique latine, on est sûr,
oui, bien sûr,
qu'on a quelqu'un qui vraiment sait de l'intérieur ce que c'est que de faire communauté et de respecter les autres. Enfin, en des cas dans les valeurs. Après, la réalisation concrète en Amérique latine, bon, elle est très variable aussi, mais il y a quand même un vécu communautaire là-bas qui est très heureux et dont on peut s'inspirer. La théologie de la libération, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, de vraiment heureux. Mais je crois que dans nos églises, il y a une critique, bien sûr, de ceux qui ont été du côté des abus, et aussi le goût, je vais dire presque l'envie, qu'on puisse tourner la page.
Oui.
Mais malheureusement, pour tous ceux qui ont été atteints, tourner la page est quelque chose qui n'est quasi pas possible, parce que ça marque à vie. Alors on peut avoir tous des cicatrices à vie, il faut que ce soit cicatrisé. Et donc là, à mon avis, il y a encore du chemin. Mais bon, ça se fera.
Ça se fera. Il faut être optimiste là-dessus et bien penser d'un rôle positif justement des églises. Et moi, je discute souvent avec Michel Fréchet, qui a tenu, qui a gros travail sur l'œcuménisme, et justement le partage entre les religions. Par exemple, le fait que vous veniez aujourd'hui sur une radio protestante, le fait que j'ai reçu Jean-Marie Prujon il n'y a pas longtemps, le fait que notre pasteur aille s'exprimer sur RCF, c'est important, ces mélanges comme ça?
Ah oui, ça me paraît essentiel. Aujourd'hui, il faut arrêter ce clivage ou protestant ou catholique. Mais non, qu'on ouvre un peu ces barrières-là et qu'on reconnaisse que, comme il y a des diversités dans nos églises, y compris l'église protestante.
Bien sûr, bien sûr.
Il ne manque pas
de
portes différentes. Qu'on puisse accepter que les uns et les autres, on n'est pas les mêmes axes, on n'est pas les mêmes appuis, mais on marche tous derrière le Christ. C'est quand même la priorité. Donc moi, il me semble qu'il est urgent que nous puissions nous intéresser et partager ensemble. Enfin, moi, je viens souvent, entre autres, à la prière de Thésée, le lundi soir. Et j'aime rencontrer, je vais souvent au culte aussi, ici ou là, je vais à la messe ailleurs. Enfin, donc, je me sens à l'aise des deux côtés, parce qu'il s'agit toujours de Jésus-Christ. Donc, de toute façon, cette bonne nouvelle-là, elle est transmise. Pourquoi on irait s'ennuyer à dire « mais c'est pas pareil ». Ben non, c'est pas pareil, c'est vrai.
C'est pas...
Tant mieux.
Exactement. CIM, vous le disiez, ce sont des rendez-vous, des rencontres. Donc l'association CIM invite ses membres, des amis ou toute personne intéressée. Le premier samedi du mois, c'est toujours
ça. C'est toujours le premier samedi du mois.
À 18h30.
Oui.
Donc dans les locaux de l'église Sainte-Thérèse.
Oui.
42 rue d'Assas, je donne l'adresse pour quiconque, pour un temps de partage de la parole, une célébration eucharistique, suivie d'un repas mis en commun, puis d'un troisième temps de rencontres et de débats. Et puis le troisième samedi du mois à 19h, les membres de l'association sont invités aussi en visioconférence à des lectures bibliques. Il y a combien de monde à peu près qui participe à ces échanges? Vous êtes combien?
Actuellement, on est un petit groupe. On est, je crois, une quarantaine d'adhérents. Et tous les adhérents ne sont pas là à chaque fois, même loin de là. Donc on peut quelquefois être très peu nombreux. L'essentiel, c'est pas tant le nombre que de se dire que nous restons fidèles à ce chemin commun parce qu'il y a des gens qui continuent à être là pour cheminer ensemble et qu'il y a donc une fraternité qui se construit, plus que si on était très nombreux. Quand on est plus fragile, plus vulnérable,
bien sûr,
la fraternité développe.
Ouais,
oui.
Ça donne une force.
Et donc voilà, on est très content quand il y a des gens qui viennent nous rejoindre. Et en même temps, ce qu'on cherche, c'est à rester vivant. Et pour rester vivant, d'une part, il faut se renouveler, il faut avancer, il faut aussi accepter de vivre avec les forces qui diminuent. Quand il y a beaucoup de personnes dont les forces diminuent et qu'on voudrait bien que ça se renouvelle par la jeunesse. Et voilà, on vit les choses avec ceux qui sont là et on essaye d'en tirer le meilleur pour que chacun puisse continuer à avancer.
Eh bien, c'est super qu'il y ait encore des associations qui proposent ce genre d'échange. C'est toujours très, très enrichissant, en tout cas. On va marquer une première pause musicale que vous avez choisie pour nous, Béatrice Firins. Oui. C'est La Follia par Jordi Savall. Espérion 21, c'est un goût commun que nous avons pour cette musique sublime. Avec la viole de gambe.
Thank you.
C'est beau, en plus en externe, j'ai le droit à un petit cours sur la viole de gambe. Voilà. On écouterait bien les 9 minutes et quelques hein, de ce son magnifique de Jordi Savall de La Folia. Et j'en profite pour remercier Manon qui est aux manettes et qui est là pour sa dernière semaine, je crois, c'est ça. Elle va bientôt nous quitter. Voilà. Et merci beaucoup Manon. On va parler maintenant, si vous voulez bien, Hélène Firenze, déjà d'elle, de l'invité du samedi. Et puis après, on parlera aussi du thème de la rencontre, qui est un thème vraiment important. Donc, samedi, alors je reprends mon papier, que je ne dise pas de bêtises, à 17h30 au Carousel. Donc,
entrée gratuite.
Entrée gratuite. Qui est-ce qui est à la base de cette invitation? C'est vous?
C'est Sim.
C'est Sim.
C'est Sim. Et alors, moi, je fais partie des trois qui avons monté la conférence, mais nous avons travaillé pour Sim.
Et elle a tout de suite dit oui, Anne Soupa.
Oui, je l'ai appelée, elle a tout de suite dit oui. Ah oui, mais alors elle, c'est direct, hein. il n'y a pas de difficulté, les relations sont faciles avec elle, c'est très, très agréable. Et bon, elle est une femme droite.
Pour préparer l'émission, j'ai été voir un peu donc, qui était cette Anne Soupa, en effet, grosse, grosse personnalité. Donc elle est née en 1947 à Paris, c'est une essayiste, journaliste, personnalité française, personnalité de la gauche chrétienne, militante féministe chrétienne. Elle est cofondatrice aux côtés de Christine Pedotti du comité de la JUP et de la conférence catholique des baptisés francophones. Bon. Et après, alors, elle a un CV de dingue, quoi.
Oui, elle a pas...
Je n'en avais jamais entendu parler, Béatrice, quand même. Je ne connaissais pas.
Oui.
Alors, vous nous en dites plus sur cette Anne Soupa.
Alors, en dire plus, mais il y a aussi, moi je ne la connais pas depuis très longtemps non plus. Hein.
Mais c'est une parole forte, c'est dommage.
Je ne l'ai encore jamais rencontrée, je vais la rencontrer samedi. je suis aussi toute jeune pour parler d'elle, mais bon. En tous les cas, c'est une femme qui a une parole droite et audacieuse, mais audacieuse pour du bon. Ce n'est pas du tout polémique. C'est pour construire, c'est pour qu'on s'appuie sur l'évangile dans cette église chrétienne dans laquelle nous sommes et à laquelle nous appartenons. Et donc son souci, c'est de donner du goût, donner de la vie, enfin elle transmet quoi, elle transmet ce qu'il habite. Et je pense que vraiment ça va être intéressant de l'écouter avec toutes les questions qu'elle pourra nous poser et puis nous faire nous poser à nous-mêmes.
Elle a fait quelques petits films sur YouTube. On voit cet enthousiasme dans la façon dont elle parle aussi.
Oui.
C'est cette énergie qui se dégage d'elle.
Oui,
c'est
et
incroyable.
Puis, il ne faut pas non plus rater l'occasion d'aller sur son blog. Hein. Il suffit de taper Anne Soupa et vous voyez qu'il y a en permanence, il y a un article qui sort. Tout à l'heure, je regardais, mais il y avait encore quelque chose qui était arrivé depuis la dernière fois. Enfin, donc, sans cesse, elle écrit. Elle est très présente, elle accepte d'être sollicitée. Elle se déplace, parce que quand même, elle vient de Paris samedi prochain. Donc, c'est quelqu'un qui, en plus, a des compétences dans bien des domaines, puisqu'elle ne s'est pas contentée de faire de la théologie. elle s'est quand même aussi mouillée dans d'autres domaines. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a une capacité intellectuelle énorme et qui est en même temps cette capacité intellectuelle est menée aussi par son humanité. C'est moi qui le perçois comme ça.
Oui, non, mais on le perçoit voilà, comme ça, à travers ce qu'elle écrit, à travers son blog, à travers ses prises de position, ses engagements aussi. Hein, je veux dire, aujourd'hui, on va dans un monde où on ne s'engage pas. Quand on s'engage, c'est pour gueuler, c'est pas pour râler, ou pour, mais un engagement. Les engagements des intellectuels ou des religieux, ou de tous les intellectuels, et je mets les grandes paroles, les grandes voix religieuses dedans aussi. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer il y a très peu de temps, enfin la semaine dernière, Delphine Horviller, hein, petit débat. Voilà, la parole de Delphine Horviller, c'est important.
Ah, complètement, oui.
La parole d'Emmanuel Sebolt, qui est assez discrète, mais elle est importante aussi. Oui, et la voix forte comme ça... Et d'autant plus en ce moment où il y a quand même beaucoup de difficultés, tous les mouvements MeToo, la place de la femme, l'égalité dans les... Tout ça, c'est important qu'il y ait des voix d'église modernes.
Ah,
même si elle est en 47, elle est moderne, cette femme.
Ah oui, elle est d'une jeunesse étonnante. Hein. Alors je crois que vraiment, c'est une bibliste qui se renouvelle sans cesse. Et je suis frappée aussi par sa capacité à travailler avec d'autres. Elle a écrit quand même plusieurs livres avec un autre auteur, hein, que ce soit Pedotti, Christine Pedotti, que ce soit encore, il y a entre autres, son dernier livre, dont nous avons emprunté le titre pour notre conférence, « Se réformer ou mourir ». C'est un livre qui a été édité, je pense, en 2023, et qui était écrit par 7 théologiennes, dont Anne Soupa, mais aussi Marie-Jo Thiel, Lucette Scarabra, Isabelle de Garande, Anne-Marie Pelletier, Véronique Margron, Laure Blanchon. Donc elle rassemble des gens pour écrire quelque chose.
Parce que Christine Pedotti, elle est très visible.
Oui,
elle est beaucoup sur les médias, elle est beaucoup sur les télés. Dès qu'il y a un article ou quelque chose sur le pape, par exemple, c'est souvent elle qui est invitée. Et d'ailleurs, elle a une belle parole, Christine Pedotti.
Oui. Elles ont écrit 2 livres ensemble. Hein. Anne Soupa et Christine Pedotti ont écrit 2 livres ensemble. Alors les autres, Véronique Margron, elle est connue, et Marie-Jo Thiel, c'est quand même une enseignante dont la parole est forte aussi et qui était enseignante à Strasbourg. C'est vraiment des personnalités. Eh bien, elle rassemble ces personnes-là, pour arriver à écrire un livre ensemble.
Mais moi, on avait organisé, c'était l'Église hein, d'ailleurs, protestante, les Pumas, qui avaient organisé ça, à Pitau, il y avait une rencontre avec la femme rabbin, qui venait d'écrire un livre ensemble.
Oui.
Et justement, c'est intéressant, je vous pose la question, parce qu'il y avait Marie-Reine
Mezzaroba,
qui représentait l'Église
catholique. Oui.
Et alors, j'ai senti qu'elle n'avait pas la même... Elle était brillante hein, dans son propos, c'est pas du tout ça, mais la jeune femme rabbin était rabbin, la jeune femme imam était imam. Évidemment, il y avait Emmanuel Sebolt, le problème s'est posé encore moins, parce que nous, les pasteurs, il y en a beaucoup. Et quand on a parlé de la place dans l'Église, c'est pas que je la sentais mal à l'aise, Béatrice, mais... C'est une parole et ça me mène vers le débat suivant, c'est que dans son blog, Anne Soupa explique sa démarche qu'elle a eue pour se présenter comme évêque.
Oui, ça c'est oui.
Voilà. Et donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2024, c'est un problème ou pas? C'est uniquement personnel ce que je vous demande, Béatrice.
Oui, oui, oui.
Vous parlez ni au nom de la signe, ni au nom de l'Église. Oui. C'est vraiment votre voix que je voudrais entendre. Le fait qu'il n'y ait pas... de prêtres femmes, est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème ou est-ce que ça va le devenir ou est-ce qu'il faut que l'Église y arrive?
Moi je crois vraiment qu'il faut que l'Église y arrive parce qu'il y a beaucoup de femmes, j'en connais beaucoup, qui avaient vraiment une vocation à être meneuse de communauté. Et être meneuse de communauté ou en les cas accompagnée. C'est plutôt accompagner une communauté, c'est aussi pouvoir célébrer. Alors, Dans l'Église réformée, l'avantage, c'est que ça fait longtemps que les femmes peuvent célébrer et que même les femmes non pasteurs peuvent aussi mener la Sainte Cène, hein, ce qui n'est pas banal. Et je trouve que c'est, pour moi, c'est intéressant, c'est vraiment important. Mais bon, n'attendons pas trop. Par contre, que les femmes dans l'Église trouvent leur place, il y a énormément de femmes qui ont souffert de n'avoir pas une vraie place à la hauteur de l'appel qu'elles ressentaient. Et donc ça, c'est très dommage. Parce que vraiment, je pense qu'il y a des femmes qui, à côté desquelles on est complètement passé. Parce que s'il n'y avait jamais rien qui pouvait se faire.
Parce que les femmes dans l'Église, et en plus, il faut quand même relativiser que et les imams et les rabbis, c'est très minoritaire, hein, il n'y en a pas tant que ça. Il ne faut pas non plus dire que c'est pareil. Non, il y a 4 ou 5 femmes imams et 3 ou 4 rabbins. Hein, je veux dire, il ne faut pas non plus dire que toutes les religions ont changé. Mais souvent, j'ai l'impression que dans l'Église catholique, on a cantonné les femmes à un rôle de care, enfin du soin. C'est-à-dire, beaucoup évidemment que dans le partage, dans les animations
La catéchèse.
Voilà, la catéchèse, c'était souvent des femmes et qu'on donnait d'autres rôles aux hommes.
Oui, c'est-à-dire que là où Anne Soupa a été originale, c'est qu'en posant sa candidature en 2020 à l'archevêché de Lyon, ce qu'elle demande, ce n'est pas de devenir prêtre. Ce n'est pas ce pouvoir-là, ce pouvoir sacré qu'elle demande. C'est de pouvoir occuper une place où elle prend des décisions et où elle peut faire des choix. Et faire des choix parce qu'elle est chrétienne, parce qu'elle est mandatée, parce qu'elle est reconnue. Et là, c'est justement cet aspect beaucoup plus de gestion, de direction, d'organisation du diocèse qu'elle était prête à faire, que d'essayer d'avoir une place visible. C'est ce qui est intéressant.
Bien sûr.
C'est justement pas du tout du côté de « je vais me cacher du moment que je suis cachée et puis que je peux aussi de temps en temps dire la messe ». Mais non, c'est pas tant ça. C'est vraiment quelle place chacune peut avoir selon ses charismes.
Et il y a d'autres femmes derrière elle ?
Ah ben oui,
oui, c'est pas un mouvement, c'est pas un mouvement qu'elle représente seule.
Oh,
il y a d'autres femmes qui pourront.
Mais bien sûr.
D'ailleurs, je vous propose de lire le début.
Et j'en serai.
Le début de sa lettre, hein, donc constatant qu'en 2020 dans l'Église catholique, aucune femme ne dirige aucun diocèse, aucune femme n'est prêtre, aucune femme n'est diacre, aucune femme ne vote les décisions des synodes. Considérant qu'exclure la moitié de l'humanité est non seulement contraire au message de Jésus-Christ, mais porte à tort l'Église, ainsi maintenue dans un entre-soi propice aux abus, considérant que je ne suis ni une inconnue, ni une apparatchik de couloir, mais que j'agis dans mon Église depuis plus de 35 ans sur le terrain comme bibliste, théologienne, journaliste, écrivain, présidente pendant 8 ans de la conférence des baptisés et présidente actuelle du comité de la JUP, tout m'autorise à me dire capable à candidater au titre d'évêque, tout me rend légitime, or tout me l'interdit. Si ma candidature est interdite par le droit canon, c'est tout simplement parce que je suis femme, que les femmes ne peuvent être prêtres et que seuls les prêtres, en devenant évêques, dirigent l'Église catholique. Et pour finir, considérant que non à cette interdiction m'est un devoir, à la fois pour cette Église que j'aime et pour l'ensemble des catholiques dont je suis la sœur. Elle est formidable, cette lettre.
Ah oui.
Alors, je vous conseille, elle est disponible sur son site et elle fait 4 pages. Donc je ne vais pas vous lire.
Je ne vais pas tout lire, non.
Tout lire. Mais voilà, il y a ce cri et cette envie d'être dans l'action.
Oui. Ah oui, et oui, de servir, de tenir sa place. Elle a une place de quelqu'un qui est très doué. Pourquoi ? En quoi son sexe va être gênant pour qu'elle ait cette place-là ? C'est là qu'il y a quelque chose qui est quand même assez impressionnant quand on le regarde, quand on prend un peu de recul et qu'on se dit, mais on se prive de tas, d'énormément de personnes qui ont des talents. Pourquoi ? Donc je trouve que oui, elle a complètement raison. Et d'ailleurs, dans les premiers siècles, il n'y avait pas seulement, je pense, des hommes qui rendaient des services. Il y avait Lydie. Dans Paul, on parle de Lydie, et Lydie avait une très grande place, et il y en avait sûrement d'autres.
De toute façon, dans toutes les religions chrétiennes, la place des femmes, et chez les musulmans, pareil, la femme a une place absolument incroyable. Toutes les femmes qui accompagnent la Bible, c'est passionnant. Enfin, je veux dire, Orvilla, on parlait très très bien, justement, la semaine dernière. Elle m'a amusée aussi, parce qu'elle parlait aussi des images des prophètes. qui était en définitive assez, qui n'était pas très viriliste. Hein. Ni Jésus-Christ ni Mahomet ne sont très virilistes.
Non, tout à fait,
Voilà, mais ceci dit, parler de la femme et de la place de la femme dans l'Église n'a rien contre les hommes.
Bien sûr.
Dans les cas de ma part,
non, pas du tout.
Parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui n'ont pas trouvé leur place parce qu'on aurait voulu qu'ils rentrent dans des carcans. Je pense à certains qui étaient vraiment des gens doués comme tout, qui auraient pu servir l'Église, et on a préféré leur demander de faire de la poterie plutôt que, qu'autre chose, alors que franchement il y avait des besoins et qu'ils auraient pu y répondre, mais ils auraient risqué d'amener du neuf qu'on n'allait peut-être pas tout maîtriser. Je crois que c'est quand même une des grosses difficultés de l'Église catholique, au moins dans les premiers siècles et puis même après, qui était de vouloir maîtriser les choses. Ça, je pense que c'est un grand danger, parce que ça nous met dans des chemins qui ne sont pas vivifiants, quoi, et pas vivants.
Il nous reste 8 minutes, Béatrice. J'aimerais qu'on parle du thème, parce que le thème de la... On a parlé... Je pense que notre enthousiaste commun va donner envie aux gens de venir rencontrer un soupe.
J'espère bien, parce que franchement, ce serait dommage de rater ça.
Et puis, il y a le sujet. Donc, le thème de la rencontre, c'est « Y a-t-il un avenir pour l'Église ?»
Voilà. Alors, justement, j'en parlais avec elle l'autre jour. Je lui disais, au fond, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas du tout une question provocatrice. C'est une vraie question. C'est-à-dire, on voudrait, si on se pose la question, c'est bien parce qu'on espère bien qu'il y a un véritable avenir, pas un avenir de rabougri, un avenir heureux, épanouissant, une bonne nouvelle qui peut passer à travers l'Église. Et donc c'est ça qui nous intéresse et qui fait qu'on a envie de s'engager et qu'elle, Anne Soupa, elle est engagée là-dedans. Donc cette question-là, c'est vraiment une question pour dire comment est-ce que nous les chrétiens, on ne peut pas parler à la place de ceux qui ont du pouvoir dans l'Église, mais nous les chrétiens, comment est-ce que nous pouvons aider l'Église à se réformer et à s'ouvrir et à progresser dans notre monde d'aujourd'hui, pour qu'on parle un langage qui soit accessible à tous et où ils ne veulent pas avoir fait des études énormes pour comprendre. Et puis il ne s'agit pas de comprendre, c'est de se laisser toucher. Est-ce qu'on peut... Tout ça, ça peut être retravaillé. Donc je pense qu'elle va beaucoup parler de l'implication des laïcs, comment les laïcs peuvent faire bouger cette grande machine merveilleuse qui a quand même traversé des siècles. Mais malheureusement, il y a aussi qu'elle a refusé, et elle a d'ailleurs écrit un livre là-dessus, malheureusement, cette institution catholique a refusé Luther, qui pourtant avait une parole vraiment prophétique. Et d'ailleurs, son livre, c'est « Le jour où Luther a dit non ». Et elle aussi, elle a dit des non. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont dit des non. Et au fond, c'est dommage que malheureusement, l'Église n'a pas pu se remettre en question à cette période-là. Aujourd'hui, nous espérons qu'elle le peut. Pas pour balancer tout, la question n'est pas de faire un grand ménage, c'est comment est-ce que nous pouvons progresser, se réformer. C'est parfois long, la réforme, mais qu'elle commence, vraiment. Et donc, je pense que c'est ça le sujet, c'est nous, laïcs, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça avance.
Vous pensez qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a 10 fois moins de gens qui vont à l'église le dimanche, dans les mêmes cercles de rencontres, quand j'ai rencontré Villers, il y avait Jean Viard qui était là, et qui est sociologue, et qui disait qu'on ne parlait jamais de la désaffection dans les mosquées. Il ne faut pas du tout croire qu'aujourd'hui, dans les 10 millions de Français qui sont dans la bulle musulmane, il n'y en a pas 10 millions qui vont à la mosquée. Pas du
les
tout.
Vendredis.
Voilà, il y en a plein qui ont le même détachement par rapport à la religiosité, à la religion d'ailleurs, pas la religiosité, à la religion que dans toutes les églises, ça touche un peu tout le monde. Et d'ailleurs, la question, elle est intéressante parce que y a-t-il un avenir pour, j'irais presque pour les églises ?
Oui, tout à fait.
On peut ouvrir le débat. Je veux dire, c'est un peu toutes les églises qui sont touchées. Qu'est-ce qui fait que il y a eu un éloignement de ça ? Il y a une analyse de ça, justement ?
Non, je peux vous faire part de mon point de vue, mais je ne suis pas informée. S'il y a peut-être probablement eu des recherches. Il me semble qu'il y a une chose qui a changé beaucoup, c'est mai 68, qui a provoqué un rejet de tout ce qui s'imposait de manière autoritaire. Et ça a fait lentement son chemin, parce que quand même, dans les églises, les valeurs chrétiennes restent, y compris même dans la société moderne d'aujourd'hui, des gens les plus laïcs et les plus athées qui soient, il y a quelque chose de l'humanité qui reste vraiment quelque chose d'important, mais en faisant fi de tout ce qui pourrait s'imposer. Aujourd'hui, se faire imposer quelque chose, ça ne passe pas.
Mais vous savez, Béatrice, moi je vis au sein du Carrousel ici. Moi, tous les fidèles que je rencontre dans le monde protestant et tous les échanges œcuméniques que j'ai et tous les échanges que j'ai avec le monde catholique, moi je trouve des gens qui sont à milieu de l'archaïsme. Hein. Je trouve que c'est des gens qui sont vis-à-vis de l'accueil des migrants, vis-à-vis de l'aide à son prochain, dans les instituts, dans les associations d'aide à mourir, qui sont là quoi et qui sont des gens d'une générosité, d'une action, qui sont vraiment avec un regard sur l'autre. C'est, je rigolais tout à l'heure avec Saint-Nicolas Chardonnay, mais enfin on est très très loin de cette image-là,
Oui. Mais vous savez, il y a combien de gens qui ne sont absolument pas baptisés de quoi que ce soit et qui lisent la Bible et qui trouvent que ça les nourrit et qu'ils en ont besoin. Alors, il y a après ceux qui disent « Oui, mais moi, j'en ai besoin, mais j'ai besoin de partager avec d'autres. » Alors déjà, tout de suite, il y a quelque chose d'une église qui revient, mais qui ne s'impose pas pour donner des consignes et des obligations. Et donc là, il y a eu un grand rejet depuis mai 68, et ça va grandissant, toute obligation est rejetée. Il y a quelque chose qu'il faut faire ? Ah ben non, pas moi. Donc il y a quelque chose qui, à mon avis, n'est pas tout à fait juste dans l'Église catholique, mais peut-être pas plus protestante d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Donc je peux parler des Églises. C'est de croire qu'il y a des gens qui savent pour les autres. Ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, on n'est pas loin de l'emprise, si on sait pour les autres. Par contre, si on raisonne avec ouverture et qu'on parle avec les autres, vraiment, à ce moment-là, peut-être qu'il y en a d'autres qui disent « Ah, mais ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, tiens, au fond, c'est pas idiot, quoi. Peut-être que ça vaudrait la peine. » Mais on ne peut plus s'imposer aux autres. Ça ne marche plus du tout. Donc je crois qu'il y a autre chose à créer, qui n'est peut-être pas une obligation du dimanche, tous les dimanches, ci ou cela, mais plutôt une invitation diversifiée, comme ça se fait quand même de plus en plus, y compris ici, chez les protestants, avec le Carrousel, mais aussi dans d'autres lieux et d'autres églises, comme il y a aussi l'escale Saint-Jean-Baptiste, qui est un endroit magnifique dont on pourrait parler, qui est sur la paroisse de Don Bosco.
Eh bien, on en parlera lors d'une prochaine, une prochaine émission, Béatrice, ce sera un moyen de se reconnaître. On se quitte sur quelques notes que j'ai choisies pour vous et on se donne rendez-vous donc samedi au Carrousel à 17h30 et toutes les questions qu'on a abordées là, vous pourrez les poser à Anne Soupa.
Voilà, tout à fait.
À très bientôt, Béatrice.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.